Bienvenue sur Provision de vie avec Fabien Végel.
Ce programme vous donne les clés pour votre épanouissement avec une approche originale fondée sur la Bible qui offre des principes intemporels et efficaces pour qui les applique.
D'autres ressources vous sont offertes sur le www.provisiondevie.com.
www.provisiondevie.com.
Provision de vie, nous investissons en vous.
Nous investissons en vous.
Matthieu 6, 9, et mon sujet aujourd'hui, c'est notre Père. Notre Père. Matthieu 6, 9. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Donc c'est un passage que vous connaissez certainement, hein, qu'on connaît tous assez bien. Et on a certainement appris cette prière. Et ce matin, mon sujet, c'est pas tellement d'étudier cette prière. Et on l'a chantée ce matin d'ailleurs. C'est pas mal, quoi. On s'était pas concerté. Mais ce que je voudrais juste appuyer ici, c'est notre Père. Et ici, Jésus met une nouvelle façon de prier en place. Jésus met un nouveau mode de communication en place et il invite les disciples et en fait chaque croyant à appeler Dieu notre Père. Et ce matin, j'aimerais qu'on parle un peu du Père, de notre Père. Et beaucoup de gens connaissent Dieu et on peut connaître Dieu de différentes façons. Hein, on peut connaître Dieu comme le tout-puissant créateur, on peut connaître Dieu comme celui qui est dur, qui est sévère, qui nous châtie ou qui nous condamne. On peut connaître Dieu comme une espèce de force inconnue. On peut connaître Dieu vraiment de différentes façons, de différents aspects, avec différentes approches. Mais très souvent aussi, on le connaît comme quelqu'un qui est loin, qui est inaccessible, qui est quelque part là-haut. Et puis, voilà, il est là. On le connaît peut-être par formalisme. Tout le monde connaît plus ou moins Dieu. Mais Dieu se révèle à nous dans sa parole comme notre Père. Notre Père. Et on a plusieurs versets comme ça qui nous montrent que Dieu promet d'être un père pour ceux qui se détourneraient du monde et qui viendraient à lui. Il nous montre que par Christ, nous avons reçu le droit de devenir enfants de Dieu. Donc si nous sommes ses enfants, il est notre père. Il nous montre par exemple que par son esprit, nous pouvons l'appeler Abba, Père. Et plusieurs fois dans sa parole, il y a des parallèles entre Dieu qui se présente donc comme un père. Et ce matin, j'aimerais qu'on parle un peu du Père. Bien sûr, c'est la fête des Pères, hein, donc c'est un sujet qui tombe bien. Mais au-delà de ça, je crois que c'est bon de reprendre un peu de temps dans la parole de Dieu et de voir, de remettre en place une image juste et équilibrée de ce que c'est qu'un Père à partir finalement de ce que Dieu, notre Père, est pour nous et de ce qu'il nous enseigne. Parce que on constate malheureusement que l'image du Père et même l'image de Dieu est souvent faussée par ce qu'on a pu vivre avec un père terrestre, hein, avec notre père dans la chair tout simplement. Hein, on a pu avoir une expérience soit très intéressante, très favorable d'un père qui a pu nous soutenir, qui a pu nous encourager, qui a pu nous former, qui a pu nous accompagner dans la bonne voie, ou alors on a pu connaître un père qui a été dur, qui a été sévère, ou un père qui a été absent, ou un père qui n'a pas été là du tout, un père qu'on n'a quasiment pas connu. Et on a beaucoup de schémas différents qui peuvent se présenter dans notre vie. Et très souvent, le schéma de notre vie personnelle avec notre Père a pu influencer aussi notre compréhension de Dieu comme Père. Et si bien que quand on dit à des gens « Dieu est ton Père », soit ça leur dit rien du tout, ou soit même ça les intéresse pas. Ils disent « Non, l'image du Père, c'est quelque chose qui est difficile. C'est quelque chose qui est parfois lourd à porter. » Et d'une autre façon, on voit souvent Dieu comme celui qui nous a sauvés. On dit c'est super, Dieu a pardonné mes péchés, il m'a sauvé, il m'a mis dans son royaume. Mais Dieu ne s'est pas contenté que de nous sauver. Dieu est devenu notre Père. Et il veut être réellement un Père pour chacun d'entre nous. Un vrai Père, un Père aimant, un Père qui nous porte, qui nous accompagne, un Père qui se soucie de nous. Un Père qui nous amène à accomplir notre destinée, qui nous amène à progresser. Et ce matin, je voudrais avec vous qu'on regarde certaines choses. Je vais citer beaucoup de versets. Je ne sais pas si on aura le temps de tourner toutes les pages parce que j'en ai vraiment pris un certain nombre. Mais je voudrais juste vous montrer quelques aspects du Père, Dieu notre Père, et qui peuvent s'appliquer aussi à nous. Et ça s'adresse peut-être un peu aux hommes. En tant que Père, nous pouvons aussi manifester ce même caractère de Dieu et avoir un modèle du Père qui soit juste, qui soit équilibré et qui reflète le modèle de Dieu dans ce monde, dans cette société et dans nos familles. Donc, que vous soyez un garçon ou une fille, que vous soyez un père ou pas un père, de toute façon, nous avons Dieu pour Père. Et c'est bon de réaliser qu'il est ce Père pour nous, qu'il est vraiment un papa qui veut nous faire du bien et que dans sa parole, il nous montre différents aspects de son côté paternel qui sont pour nous une bonne nouvelle. Je voudrais que vraiment on se rappelle ce matin et qu'on réalise que Dieu est notre Père. Vous avez un Père, vous avez un papa. On a un papa sur la terre, pour ceux qui l'ont encore, et en tout cas, on a un papa dans le ciel. Il est notre Père. Et souvent, on peut prier cette prière qu'on a lue tout à l'heure dans Matthieu 6, qu'on a chantée plutôt en disant notre Père, notre Père. Mais c'est pas juste notre Père, c'est pas juste une expression. Notre Père, c'est comme on vient devant lui et on dit papa. Il est mon Père. Il y a quelque chose de fort derrière ses paroles. Et Dieu veut ce qu'il y a de meilleur pour chacun de ses enfants. Oui, il est ce Père qui a mis un cadre. Il est ce Père qui peut parfois nous corriger. Il est ce Père qui attend des choses de nous. Il est ce Père qui est l'autorité, mais il est aussi un Père aimant, un Père bienfaisant, un Père qui veut le meilleur pour chacun de ses enfants. Et c'est tout ce qu'on va essayer de regarder ensemble ce matin dans la parole pour vraiment rétablir, comme je disais, cette image du Père à partir du modèle de Dieu lui-même qui est notre Père. Alors un premier point qu'on peut souligner, c'est que le Père nous donne la vie. Hein? Le Père, c'est celui qui donne la vie à l'enfant. N'est-ce pas? Pour qu'il y ait un enfant, eh bien, il faut une dame et un monsieur hein, qui deviendront ensuite papa et maman. Mais c'est le père qui apporte la semence. Hein, une maman ne peut pas faire un bébé toute seule. Même si quelqu'un a chanté un jour, elle a fait un bébé toute seule, mais ça ne fonctionne pas. À un moment, Dieu a établi que le papa amène sa semence. Donc le père donne la vie, le père communique la vie. Et bien sûr, Dieu nous a amenés à l'existence. Hein, c'est Dieu qui nous a donné un souffle de vie, c'est Dieu qui a permis que nous existions, tout comme le Père naturel aussi, c'est celui qui amène une semence de vie en sorte que le processus se fasse et que l'enfant puisse naître. Donc ça c'est une chose, mais ça ne s'arrête pas là. Le Père c'est pas seulement quelqu'un qui donne la vie et puis s'en est terminé. C'est beaucoup plus que ça un Père. Parfois on dit oui, mais lui c'est mon Père, c'est lui qui m'a donné la vie. On peut parfois parler même du géniteur. Même si on n'aime pas trop le terme parce que c'est un peu juste un mot scientifique. Mais faut réaliser que celui qui donne la vie est le Père, mais juste donner la vie ne fait pas de quelqu'un un Père dans tout le sens de ce que Dieu veut et de ce que Dieu voit dans la notion de paternité. Donc le Père nous donne la vie, c'est vrai, mais une deuxième chose qu'on peut remarquer, c'est que notre Père est un repère. C'est pas moi qui l'ai inventé, hein, c'est un jeu de mots qu'on entend, que j'ai entendu plusieurs fois, mais qui est profondément vrai. Le père, ça doit être un repère pour quelqu'un. Hein, mon père, c'est celui qui, quand je le regarde, ça doit me communiquer quelque chose. Je dois réaliser qu'il y a un cadre qui est posé. L'une des fonctions du père, c'est de donner le cadre pour la vie. C'est de nous montrer des limites, de nous montrer comment nous pouvons fonctionner, de nous donner des principes. Et Dieu, le Père, l'a fait, puisque dans sa parole, il place le cadre. Il place le contexte dans lequel nous devons évoluer et comment nous pouvons vivre et progresser. Et par exemple, dans 2 Timothée chapitre 3, au verset 16, il est dit que toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Donc Dieu, notre Père, nous a donné un cadre, il nous a donné l'écriture, c'est-à-dire sa parole que nous pouvons aujourd'hui consulter facilement et qui est utile pour enseigner, instruire, poser un cadre. Et dans la Bible, on a également l'exemple très manifeste dans les proverbes. Hein, les proverbes, c'est finalement les écrits d'un père à son fils. Si on lit tout au début des proverbes, on voit que Salomon écrit pour donner des instructions. Hein, dit par exemple, Proverbe chapitre 1er, il est dit « Proverbe de Salomon, fils de David, roi d'Israël, pour connaître la sagesse et l'instruction, pour comprendre les paroles de l'intelligence, pour recevoir des leçons de bon sens, de justice, d'équité, de droiture, pour donner au simple du discernement, au jeune homme de la connaissance de la réflexion. » Et puis ensuite, il exhorte à écouter donc cette voix de la sagesse et qui en fait vient de Dieu lui-même. Mais on voit que le Père va donner donc des repères, va donner un cadre. Et Dieu ne change pas. La Bible nous montre que Dieu est stable, si on peut dire, qu'il n'y a pas en lui de variation, que Dieu est sur son trône, qu'il ne change pas, qu'il est assis, qu'il est en autorité, qu'il est, on pourrait dire, équilibré. Et de la même façon, un père, c'est quelqu'un qui va donner un cadre, un contexte, mais qui va aussi se tenir au cadre qu'il a instauré. Le père, c'est quelqu'un à qui on peut regarder et on retrouve tout de suite la voie. Peut-être qu'on peut un petit peu circuler de différentes façons, faire différentes choses, mais en principe, lorsqu'on regarde vers son père, on se rappelle et on retrouve la voie dans laquelle on peut marcher pour assurer un avenir plus certain et pour être plus équilibré. Alors vous allez dire que je donne une image très idéale, mais c'est l'image que Dieu donne. Et Dieu, notre Père, est celui qui nous donne tous les repères qu'il faut, qui nous donne toute la direction qu'il faut. Donc même si peut-être notre Père terrestre n'est pas un repère ou n'a pas été un repère, nous avons en Dieu un Père qui nous donne le cadre, qui nous donne le chemin à suivre, qui nous donne les principes à suivre. Et le but dans tout cela, c'est que nous puissions nous épanouir, que nous puissions être accomplis, que nous puissions progresser. Et le désir du Père, c'est que nous soyons semblables à lui. Par exemple, dans la première épître de Jean, au chapitre 3, il est dit que de contempler, de considérer de quel amour le Père a manifesté en nous appelant ses enfants. Et en fait, le but ultime du Père, c'est que nous puissions même devenir semblables à lui, de telle sorte que lorsqu'il sera manifesté, nous aussi nous serons semblables à lui, nous serons comme notre Père. Donc Dieu, en tant que Père, veut nous donner ses repères, ses principes, ses directives, dans le but que nous puissions être comme lui, que nous puissions être stables, affermis, équilibrés, que nous puissions accomplir des choses. Un autre point que je voudrais souligner sur le Père, et c'est une image que Dieu nous donne très régulièrement dans sa parole, mais notre Père est accessible et disponible. Notre Père est accessible et disponible. Ça, c'est une bonne nouvelle, n'est-ce pas? Moi, je ne sais pas ce que vous avez vécu, vous. Je sais ce que moi, j'ai vécu. Et sans m'étaler sur ma vie, mais je n'ai pas tellement connu mon Père. Enfin, je l'ai connu physiquement, mais je n'ai pas connu le Père, parce qu'il n'a pas été capable d'exprimer ce côté paternel par rapport à certains problèmes qu'il avait. Mais il était là, mais je n'ai pas connu un Père. Mais c'est une bonne nouvelle de savoir que notre Père est accessible et disponible. Vous savez, dans toutes nos activités, dans tout ce qu'on peut avoir à faire, on peut être très occupé. Et il peut arriver même qu'un enfant cherche à s'approcher de son père, mais que le père ne soit tout simplement pas là. Ou que le père lui dise « c'est pas le moment ». Ou que le père lui dise « j'ai pas le temps pour toi ». Ou que le père ne puisse jamais le recevoir. Mais j'aimerais vous dire que notre père, notre papa dans le ciel, il est accessible et il est disponible. Plusieurs fois dans sa parole, il dit « invoque-moi, je te répondrai ». Jérémie 33:3, vous connaissez bien ce passage, il y a beaucoup de slogans avec ce passage, mais il dit « Invoque-moi, je te répondrai ». Dans le psaume 91, il dit encore de celui qui l'aime que « Il m'invoquera, je lui répondrai. Il me priera, je l'exaucerai. » Ça, c'est notre Père, il est accessible, il est disponible. Dans Jean chapitre 6, au verset 37, Jésus, reflétant le caractère du Père, dira « Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. » Et si peut-être un père ou un homme peut quelquefois repousser son enfant, si peut-être un père peut mettre dehors l'enfant qui vient à lui en disant « Mais va voir ailleurs, je suis occupé pour rester un peu poli, mais notre père dit « Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. » Laisse-moi te dire que même si le père est occupé à s'occuper de toute l'humanité, et s'il a des dossiers par milliers à traiter, si j'ose prendre cette image, il ne te mettra jamais dehors. Ton père, notre père, est accessible, il est disponible, il est prêt à nous écouter, à nous entendre. Si on doit passer un coup de fil et que sur le portable de Dieu, il voit notre nom, il se réjouit et dit « Excusez-moi un moment, j'ai un appel important » et il répond. Il dit « Invoque, je te répondrai ». Quand notre enfant nous appelle, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on fait sonnerie muette et on met le téléphone de côté? Il n'a qu'à attendre, on verra ça plus tard. Ou bien est-ce qu'on attache de l'importance à un appel de notre fils, de notre fille, de notre enfant? Le Père, notre Père est disponible, il est accessible. Quand notre enfant a besoin de nous, qu'il nous sollicite, est-ce qu'on accueille notre enfant? Est-ce qu'on le reçoit? Ou bien est-ce qu'on a peut-être des choses plus importantes? Mais le Père, dans la pensée de Dieu, et Dieu lui-même nous démontre un Père accessible, un Père disponible, un Père qui accueille, qui reçoit Hébreux 4, 16 encore dit « Approchons-nous avec assurance du trône de la grâce ». Il n'y a pas des protocoles, il n'y a pas des chemins à prendre. On vient avec assurance devant le trône de la grâce. Et j'aime ce mot de la grâce. Pas le trône du jugement, pas le trône de la punition. On parlera un petit peu plus tard de punition et de correction parce que ça fait partie du lot. Mais trop souvent, on voit Dieu comme celui qui vient juste nous châtier. Ou très souvent, on voit que le papa, c'est celui qui maintient l'ordre. Et c'est vrai en ce sens, il est un repère. Mais le papa n'est pas seulement celui qui corrige et qui punit. Le papa doit pouvoir montrer de la grâce. L'enfant doit pouvoir s'approcher de son papa et s'attendre à de la grâce, à de la bonté, à de la faveur. Hébreux 10, verset 19 dit encore que nous avons une libre entrée dans le sanctuaire. On peut venir librement vers Dieu, notre Père. Et 1 Jean 5, 17 nous dit que nous avons l'assurance que si nous demandons quelque chose, il nous écoute. Et dans la suite, il dit que s'il nous écoute, il nous donnera aussi la chose selon sa volonté. Donc nous avons l'assurance auprès de notre Père que nous pouvons lui demander qu'il écoute. Ça, c'est extraordinaire, n'est-ce pas? Nous avons un Père qui est disponible, un Père qui nous accueille, un Père qui nous écoute. Et maintenant, pour les pères, eh bien, l'enseignement, c'est que nous avons besoin aussi d'être à l'image de notre Père céleste, d'être disponible, d'être à l'écoute, que nos enfants puissent savoir que si je viens vers mon papa, il m'écoute. Et il m'écoute, et si ce que je lui demande, c'est juste, c'est correct, c'est bon, je vais l'obtenir. Il doit pouvoir venir avec confiance, avec assurance. Et vraiment nous encourager à être disponibles pour nos enfants. Vous savez, moi, quelquefois, j'ai dû me faire la réflexion, parce que j'ai beaucoup d'activités. Beaucoup d'activités, j'ai un métier qui est très prenant par moments. Et puis il y a l'œuvre du ministère, et puis il y a d'autres choses à côté. Et je sais qu'il y a certains moments où je dois volontairement dire maintenant je prends cet après-midi-là, ou je prends tel temps pour être avec ma femme et avec mon enfant. Je prends ce temps-là pour être avec mon enfant. Et c'est important en tant qu'homme, en tant que père, que nous soyons disponibles pour nos enfants. Il y a beaucoup de choses à faire, il y a un temps pour chaque chose, la parole elle-même le dit, mais nous devons passer du temps avec nos enfants. Nous devons montrer à nos enfants, nous sommes accessibles, nous sommes disponibles, nous sommes là avec eux, de vivre quelque chose avec nos enfants. Tout comme Dieu le Père désire vivre quelque chose avec chacun de ses enfants, que nous sommes vous et moi. Tout comme Dieu le Père, à chaque instant, quand on lève les yeux, qu'on lui demande quelque chose, il est disponible. Ça, c'est l'image de Dieu, ça, c'est l'image du Père selon Dieu. Un autre point que j'aime beaucoup, c'est que notre Père, qui est dans les cieux, notre Père céleste, il sait ce dont nous avons besoin, ce qui est bon pour nous, et il pourvoit. Il nous donne de bonnes choses. Ça, c'est une bonne nouvelle, n'est-ce pas? De savoir que j'ai un papa. Et mon papa, il sait ce dont j'ai besoin. Et il sait ce qui est bon pour moi. Et parfois, moi, je veux quelque chose, mais lui sait ce qui est bon pour moi. C'est peut-être pas ce que moi, je voulais. Mais il va me donner de bonnes choses. Matthieu 6, 32. Il dit par exemple, ne vous inquiétez pas. Ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus, car ces choses-là, les païens les recherchent, mais votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Et par ailleurs, il nous dit bien sûr de lui faire connaître nos besoins, c'est-à-dire de les lui confier, de nous attendre à lui, mais il sait que nous avons besoin de ces choses-là. Et vous savez quoi? Parce qu'il nous aime, s'il sait qu'on en a besoin, il est aussi prêt et disposé à nous les donner, à pourvoir à ces besoins-là. Matthieu 7, on est simplement la page, au verset 9. Jésus poursuit encore, il dit, « Lequel de vous donnera une pierre à son fils s'il demande du pain? Ou s'il demande un poisson? Pardon, lui donnera-t-il un serpent? Si donc, méchant comme vous êtes, vous savez donner des bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent ? » Donc, notre Père dans les cieux est prêt à donner de bonnes choses à ceux qui les lui demandent. Il ne donne pas des mauvaises choses. Vous savez, parfois on dit, oui, Dieu m'a donné telle maladie. Dieu m'a donné tel malheur. Dieu m'a donné tel problème. Dieu ne donne pas des mauvaises choses. Dieu désire donner de bonnes choses à ceux qui les demandent. Et il dit que si vous, en tant que père physique, vous savez donner des bonnes choses à vos enfants, n'est-ce pas? Pour les pères, vous n'allez jamais donner à votre enfant quelque chose qui est empoisonné, qui n'est plus bon à manger. pour garder l'image de Jésus. Et Dieu lui-même ne va pas nous donner quelque chose de mauvais, il nous donne ce qui est bon pour nous. Le Père sait ce dont on a besoin et il nous donne ce qui est bon. Et dans Jean chapitre 16, au verset 27, vous pouvez noter qu'il est dit que le Père lui-même vous aime. Et si vous lui demandez quelque chose en mon nom, il vous le donnera. Donc Jésus lui-même, dans son message, a insisté en disant « Mais le Père vous aime. Le Père veut votre bien. Le Père a en réserve des bonnes choses pour vous. » Donc nous avons un Père qui connaît nos besoins et qui veut nous les donner. Et ça, c'est pour chacun d'entre nous. Vous savez, ça m'arrive parfois que des gens me disent « Ouais Fabien, tu voudrais pas prier pour moi, tu voudrais pas prier pour telle situation, parce que toi, je sais que Dieu t'écoute. » Et quand il me dit ça, ça me fait sourire. Et c'est vrai que Dieu m'écoute, parce qu'il est mon Père, qu'il m'aime. Mais souvent, moi, je leur dis, moi, je vais prier pour toi, il n'y a pas de problème. Mais le même Père qui m'écoute, il t'écoute toi aussi. Il est ton Père, il est notre Père à chacun. Et il nous écoute, il nous donne ce que nous lui demandons. Si nous demandons selon sa volonté, vous êtes autant fils et filles de Dieu que moi-même. Donc moi, je peux prier, je peux demander des choses à Dieu pour vous. Il n'y a aucun problème, on peut prier les uns pour les autres. Mais chacun d'entre nous, nous pouvons venir librement devant notre Père. En lui disant, je sais que tu connais mes besoins et que tu pourvois. Et juste lui demander, papa, j'ai besoin de telle chose. Papa, je voudrais telle chose. Papa, j'ai besoin de ça. Et Dieu va vous le donner. Là, ça me fait des fois sourire. J'avais un ami comme ça qui me disait, mais de toute façon, toi, t'es un chouchou du Seigneur. Il t'arrive que des bons trucs. Et je dis, c'est vrai qu'il m'arrive beaucoup de bonnes choses, mais il ne m'arrive pas que des bonnes choses. Mais vous savez quoi, on est tous les chouchous du Seigneur. Dieu nous aime, il est notre Père, il veut notre bien. Et de la même façon, nous devons apprendre à vouloir le bien pour nos enfants, à leur donner ce qui est bon. Et vous savez, je l'ai pas sorti ici, mais j'avais lu à un moment un texte qui disait comment faire de vos enfants des délinquants. Et entre autres, ça disait de leur donner tout ce qu'ils vous demandent. À un moment, en tant que père, on peut pas juste donner à notre enfant tout ce qu'il nous demande, mais on donne à nos enfants de bonnes choses, ce qui est bon pour eux. Et si ce qu'il me demande est bon pour lui, je lui donne. Mais si ce qu'il me demande n'est pas bon pour lui, je vais lui donner ce qui est bon pour lui. Parce que je connais ses besoins, parce que je sais ce qui est bon pour sa progression. Et Dieu lui-même fait ça pour nous, et nous, en tant que père, nous pouvons le faire. Nous avons accès à notre Père céleste qui nous donne ce qui est bon. Un autre aspect de notre Père céleste, c'est qu'il nous console, il nous protège et il nous relève. 2 Corinthiens, chapitre 1er. De Corinthiens 1 au verset 3, il est dit « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de miséricorde et le Dieu de toute consolation, qui nous console dans nos afflictions, afin que par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans l'affliction. » Donc Dieu est un consolateur, le Père est un consolateur. Et si on lisait par exemple, mais il y a des dizaines de versets, mais on pourrait lire par exemple le psaume 23, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il restaure mon âme, hein, il pourvoit mes besoins, il me protège, je n'ai rien à craindre, etc. » Dieu nous protège, il nous console, il nous relève. Et c'est vrai que souvent, on imagine facilement la maman qui va consoler. Hein, on vient pleurer sur l'épaule de sa maman, puis on va dire « Ah, mon pauvre petit !» Et puis elle va consoler. Et c'est vrai que les mères savent le faire, et peut-être qu'elles le font des fois même un peu trop. Mais le Père aussi est un consolateur. Dieu, notre Père, est un consolateur. Et vous savez quoi? Un papa aussi doit pouvoir consoler son enfant. Un papa doit pouvoir montrer du sérieux, de l'autorité, mais un papa doit aussi pouvoir consoler son enfant. Doit pouvoir rassurer son enfant. Notre Père nous console, nous protège. Il nous relève, il est bon, il est aimant. Un autre aspect, que notre Père nous corrige et nous réajuste. Et là, je pense que j'aurais pas besoin d'insister longuement parce que assez communément, c'est marrant, mais c'est l'image qu'on a du Père. On dit le Père, c'est lui qui fait la loi, c'est lui qui corrige, c'est lui qui met de l'ordre. C'est vrai, Mais tout ça dans un ensemble et avec équilibre. Mais le Père corrige. Et notre Père céleste nous aime, il veut notre bien, il nous donne, il nous a donné, il nous a affranchis pour la liberté, il nous a sauvés du péché, il nous donne le choix de décider, de progresser dans la vie, de vivre des choses, mais il peut nous corriger et nous réajuster et il le fait par amour. La Bible déclare qu'il châtie ceux qu'il aime dans Hébreux chapitre 12 verset 6 ou encore dans Éphésiens 6. Il est dit au Père de corriger l'enfant selon le Seigneur. Donc lorsqu'un enfant fait une bêtise, bien sûr, on le corrige. Hein, on peut le punir, on peut parfois lui faire sentir physiquement qu'il a fait une bêtise. On instruit son enfant. Ça, c'est le rôle du Père, de faire comprendre à l'enfant qu'il y a des limites qu'il ne faut pas franchir, de corriger l'enfant si l'enfant est en train de prendre une mauvaise direction, mais aussi de le réajuster. Mais maintenant, et ça c'est important à équilibrer, c'est que lorsque nous corrigeons notre enfant, ou lorsque nous le réajustons, on pourrait dire, tout comme lorsque Dieu nous corrige, ce n'est pas quelque chose de destructeur. C'est pas parce que l'enfant fait une bêtise qu'il n'est plus notre enfant, n'est-ce pas? Hein, l'enfant peut-être nous a déçus, il a peut-être fait une bêtise, on va le corriger, mais il ne perd pas son statut d'enfant. Et de la même façon, Dieu, notre Père, lorsque nous péchons, lorsque nous passons à côté du but, lorsque nous faisons même le mal, Dieu peut nous corriger pour nous ramener, mais nous restons enfants de Dieu. Il nous aime toujours, son cœur est toujours tourné vers nous, il nous accueille, nous restons dans ce statut d'enfant de Dieu, nous restons la prunelle de ses yeux. Tu sais, on n'approuve pas toujours ce que font nos enfants, mais on aime nos enfants. On n'approuve pas toujours les actes que les enfants posent, mais on les aime, on veut qu'ils avancent, on veut qu'ils s'expriment, on veut qu'ils progressent. Et de la même façon, parfois nous pouvons avoir fait des choses de travers et qu'est-ce qui se passe, c'est que souvent, on se sent amoindri, on se sent blessé. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que corriger son enfant, ou l'instruire, ou le réajuster, ça ne doit pas aller jusqu'au point de blesser, d'amoindrir ou de détruire l'enfant. La correction doit remettre sur la voie, doit justement réajuster, c'est-à-dire ramener sur le bon chemin, doit faire comprendre qu'il y a quelque chose qui ne s'est pas fait comme ça devait être, mais dans le but de le faire progresser et grandir. Ce qui veut dire que même si je corrige mon enfant, mais c'est pas pour autant que je vais passer mon temps ensuite à lui rappeler qu'il est méchant, qu'il n'est pas capable, qu'il n'obéit pas, qu'il n'est bon à rien. Peut-être qu'il n'a pas obéi, mais j'aime l'expression que quelqu'un utilisait, j'oublie qui c'était, mais qui disait que il a l'habitude de parler de son enfant d'une manière assez réfléchie. Et plutôt que de dire que tu es un méchant garçon, il dit c'est un gentil garçon qui a désobéi. Et ceci juste pour donner l'image. Quelquefois, nous enfermons notre enfant. Donc, l'enfant peut-être nous raconte quelque chose qui est faux. Et qu'est-ce qui se passe? On peut être tenté de dire, mais c'est qu'un menteur. T'es qu'un menteur. Mais le fait qu'il ait menti ne fait pas de lui un menteur. Et parfois, nous enfermons l'enfant dans sa bêtise. Ou bien peut-être qu'il a pris quelque chose, il vous a pris une pièce dans votre sac. Et qu'est-ce qui se passe? Ça devient un voleur. Vous savez, quand Dieu nous regarde et que nous commettons une faute, Dieu dit, ok, tu as commis une faute, mais tu n'es pas pour autant un pécheur. Tu restes un enfant de Dieu qui a commis une faute. Et il te promet que si tu te repens, il est fidèle et bon pour te pardonner et te restaurer. Et de la même façon, notre enfant peut commettre une faute, mais il reste notre enfant. Et nous pouvons le corriger, mais s'il se repent, nous le restaurons dans son statut de fils et de fille, nous ne l'enfermons pas. Et de la même façon, nous-mêmes, ne nous enfermons pas. Parfois, quand on fait une faute, quand on pêche, nous-mêmes, on s'enferme. Et on se redit, mais l'année dernière, ou la semaine dernière, ou il y a quelques jours, j'ai fait telle chose. Et on se met nous-mêmes une barrière entre Dieu et nous. Mais n'est-ce pas te dire que notre Père est bon, il est aimant. Et notre Père ne nous condamne pas, mais nous pardonne et nous amène à la restauration. Donc si tu as péché, mais que tu as demandé pardon, que tu t'es repenti, Dieu ne te condamne plus pour ça. Il t'a déjà pardonné et il te restaure. Donc ne reste pas enfermé dans une erreur que tu as commise. Ne dis pas que moi je pourrais pas être pleinement béni parce que j'ai fait ça à un moment donné. Ou bien j'ai fait trop de choses dans ma vie, donc j'aurais pas telle chose. Non, Dieu te restaure, il t'aime, il ne te condamne pas, il ne t'enferme pas dans une erreur que tu as pu faire. Et on a bien sûr un exemple flagrant. Dans la parole, c'est dans l'évangile de Luc au chapitre 15 par exemple, c'est ce qu'on appelle la parabole du fils prodigue. Ce fils qui vivait dans la maison de son père et qui un beau jour, il est passé quelque chose par la tête et il a demandé à son père de lui donner son héritage, j'allais dire par anticipation, parce qu'il aurait quand même pu attendre que le père soit mort pour vouloir son bien, mais il a pris son bien et puis il est parti. Et on nous raconte qu'il a été dépenser son argent, il a été faire toutes sortes de choses, et jusqu'au jour où il n'avait plus rien, et il s'est retrouvé dans une position misérable. Et à ce moment-là, le fils était là à réfléchir sur son sort, et l'une des choses qui est intéressante dans sa réaction, Luc chapitre 15, et au verset 18, après avoir réfléchi, après être rentré en lui-même, verset 17, il dit, verset 18, « Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, « Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils, traite-moi comme l'un des ouvriers. » Donc là où il était loin, il était dans sa bêtise, dans sa misère, mais il s'est dit, « Je reviendrai vers mon père. » Et Dieu est ce père qui nous reprend, qui nous accueille. On peut avoir fait les pires bêtises, on peut s'être éloigné de lui, mais si nous nous décidons à nous repentir et à revenir vers lui, Dieu va nous accueillir. Et le fils n'espérait même pas retrouver sa position, il espérait juste travailler comme n'importe quel ouvrier. Mais la parole nous montre, dans les versets suivants, que il se leva vers ses vins, il alla vers son père, et alors qu'il était encore loin, son père le vit, fut ému de compassion, et courut se jeter à son cou et l'embrassa. Imagine un peu le fils qui était parti avec son héritage. Ça revient quasiment à dire que pour moi, papa, t'es mort, puisque je pars avec l'héritage. C'est comme s'il était déjà mort, c'était déjà fini pour lui, il était passé à autre chose. Il part avec son héritage, il dépense tout, il fait des bêtises, il fait du mal. Il se retrouve dans la misère, et puis il revient, et qu'est-ce qui se passe quand le père le voit? Le père lui-même court vers lui. Et moi j'aime cette image, c'est vraiment l'image quand Dieu nous dit « Approche-toi de moi et je m'approcherai aussi de vous ». C'est que Dieu ne dit pas juste « Venez à moi, repentez-vous et puis je vous sauverai ». C'est ce qu'il nous dit, mais il dit « Quand tu fais le premier pas, mais moi-même je viens vers toi et je t'accueille ». Et ça c'est le cœur d'amour du Père, de Dieu notre Père. Même si on peut avoir fait différentes choses, mais Dieu est prêt. Et quand il nous voit revenir vers lui, lui-même il vient vers nous, il nous accueille. Et ce qui est intéressant ici, c'est que le Père va restaurer son fils dans la position de fils. Il ne va pas juste le laisser comme un moindre serviteur. Mais il va lui donner de bons vêtements. Il va lui donner un anneau, il va faire une fête. Et de la même façon, si peut-être on s'est éloigné de Dieu d'une certaine manière, mais Dieu est prêt à nous recevoir. Et il efface complètement. D'ailleurs, la Bible dit qu'il ne se souvient même plus de nos iniquités. Et il nous reçoit comme ce Père aimant, comme ce bon Père, prêt à nous recevoir, prêt à nous restaurer, prêt à nous donner une suite meilleure. Même si peut-être notre propre désobéissance nous a mis dans certaines situations, mais Dieu est prêt à nous en faire sortir. Et parfois on s'enferme en disant « Oui, mais avec ce que j'ai fait, Dieu ne pourra pas faire telle chose. Avec ce que j'ai fait, telle promesse de Dieu ne va pas s'accomplir. » Laisse-moi te dire que peu importe ce que tu as fait, si tu te repens, que tu reviens vers ton Père, mais ton Père te restaure. Il te restaure au statut de fils. Il te donne des choses nouvelles, des choses meilleures. Il veut ton bien. Rien au point suivant, notre Père nous voit comme son fils. Il croit en nous. Et il nous supporte. Supporte au sens des supporters, de celui qui vous encourage, qui vous fait progresser. Job chapitre 2 verset 3. Là, regardez ça. Dieu rend témoignage de Job à ce moment-là. Job 2 verset 3. Je ne vais pas trop commenter ici la discussion entre Dieu et le diable. Hein. Il peut y avoir des débats théologiques ici, mais je vais juste vous montrer quel langage Dieu tient au sujet de Job. Et on voit ici le Père qui parle de son fils. Il dit « As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu, se détournant du mal. » Il demeure ferme dans l'intégrité et tu m'excites à le perdre sans motif. » Ce que j'aimerais vous montrer ici, c'est que peut-être qu'en cherchant bien, Dieu aurait pu trouver une faute chez Job. Dieu aurait pu trouver une imperfection parce qu'aucun homme n'est parfait. Mais Dieu va dire à Satan, « As-tu remarqué Job ? Mon serviteur, il n'y a personne comme lui. Il est bien, je suis fier de lui. Bien sûr, je paraphrase. Mais quand on se déplace, vous savez, avec Sophie et notre fils Josué, moi souvent je suis fier de dire, mais Josué, il est intelligent, il est éveillé. Moi j'aime à mettre l'accent, à montrer aux gens, mais regardez comme il sait bien parler. Regardez, il connaît déjà toutes les lettres de l'alphabet, il sait écrire son nom. Quand on se déplace avec nos enfants, on aime dire du bien, on aime montrer ce qu'il sait faire, montrer que ça c'est mon fils. Est-ce que vous avez remarqué Josué? Il est éveillé. Est-ce que vous avez vu comment il sait faire des choses? Est-ce que vous avez vu comment il est capable? Un père aime vanter, entre guillemets, son enfant. Du moins, c'est l'image que nous donne notre Père Céleste. Montrer le bien de nos enfants, ses capacités, dire du bien de notre enfant. C'est vrai que quelquefois, il faut le corriger, le mettre à sa place. Je n'idéalise pas. Mon fils Josué n'est malheureusement pas parfait. Il aurait dû faire comme moi. Mais bien sûr, on doit le corriger par moments. Mais quand on va quelque part, quand on est chez des gens, je passe pas mon temps à dire « Ah oui, mais Josué, il fait telle bêtise. Ah oui, mais Josué, il parle pas bien. Ah oui, mais Josué, un jour, il m'a fait ça, ou il a fait ceci, ou bien il a désobéi. » Je dis du bien de mon fils. Est-ce que tu as vu comment mon fils, il est bien? Tu as vu ce qu'il sait faire? Et peut-être que ce matin, si Dieu était là au milieu de nous, il serait en train de dire « Mais as-tu vu Patrick? C'est mon fils !» As-tu vu Michel? As-tu vu Nicole? As-tu vu chacun d'entre nous? Dieu serait là et dit, est-ce que tu as remarqué mon fils? Est-ce que tu as remarqué ma fille? Et Dieu dirait ça avec un ton de dire qu'il est fier de toi, il t'aime, il est ton père. Il est un père qui nous voit comme ses enfants, qui croit en nous. Vous savez, il a payé cher pour nous avoir. Moi, je dis quelquefois, je ne sais pas si j'aurais payé pour m'avoir. Mais Dieu a payé pour m'avoir. Il doit avoir de bonnes raisons. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il a payé, moi je suis mort, et maintenant il vit en moi. Donc j'ai de la valeur, je vaux quelque chose. Et c'est vrai pour chacun de nous. Et Dieu aime de dire, as-tu remarqué mon fils? As-tu remarqué ma fille? As-tu remarqué mes enfants? Il dit du bien, il nous soutient, il croit en nous. De la même façon, un père devrait croire dans ses enfants. Il devrait être le premier supporter de nos enfants. Vous savez, quand nos enfants font quelque chose, on doit être le premier à dire, vas-y, tu peux y arriver. Peut-être le premier à dire, mais fais des efforts. Peut-être quand l'enfant se décourage, on devrait être là à dire, non mais poursuis, tu vas y arriver, ça va aller. On devrait être là à croire dans nos enfants. Plutôt que de dire, lui il sait rien faire, il sait pas, il connaît pas. Ou dire, de toute façon tu ne deviendras jamais rien. Et malheureusement, ces paroles ont été prononcées trop souvent, sur trop d'enfants. Trop souvent des parents ou des gens proches peuvent dire, mais toi t'es qu'un bon à rien. Toi tu sers à rien, toi t'es nul, etc. Mais... Vous savez, même si on a dit ça de vous, votre Père qui est dans les cieux, lui qui a créé les cieux et la terre, lui qui a fait tout l'univers, il dit autre chose de vous. Et lui, il dit, tu es capable, tu es loin. Il dit, je t'ai donné ce qu'il faut. Il dit, je crois en toi. Il dit, tu vas réussir, tu vas progresser. Et Dieu est notre premier supporter et un Père devrait être un supporter pour son Fils. Et dans Actes chapitre 10 au verset 34, il est dit que Dieu ne fait pas de favoritisme. Pourquoi je dis ça? C'est parce que des fois on peut avoir l'impression et se dire que y a des gens que Dieu bénit plus, il y a des gens que Dieu soutient plus, il y a des gens qui ont une meilleure position, mais Dieu ne fait pas de favoritisme. Et j'ai même envie de pousser en disant que nous sommes tous le favori et la favorite de Dieu. On est tous son préféré. Ça c'est Dieu seul qui est capable. Vous savez, en tant qu'homme, en tant que femme, on peut être tenté d'avoir certaines préférences. Certaines affinités avec des gens, ou peut-être même un parent, je ne sais pas encore, pour l'instant je n'ai qu'un enfant, mais peut-être qu'on peut être tenté d'avoir des préférences, de faire du favoritisme. Mais là aussi, le Père nous donne l'exemple de ne pas faire du favoritisme, mais que chaque enfant soit le favori. Parce que chacun est différent, chacun est unique, et chacun doit être notre préféré. Chacun doit se sentir comme si on n'était que son propre papa à lui seul, sa propre maman à lui seul, parce que ça concerne aussi les mamans. Chacun est unique et Dieu va s'engager entièrement pour chacun d'entre nous. Parce que nous sommes tous son préféré. Tu es le préféré de Dieu. Tu es son enfant, il t'aime, tu es son unique, son préféré. Il peut se donner tout entier. Ça, c'est Dieu seul qui peut le faire. C'est peut-être un mystère, mais devons le croire, Dieu est capable. Dieu est capable. La Bible dit que nous sommes comme la prunelle de ses yeux. La Bible dit qu'il connaît combien de cheveux il y a sur chacune de nos têtes. Vous vous rendez compte un peu? Et on est nombreux sur la terre et il y a beaucoup de cheveux. Certains en ont un peu moins que d'autres. Mais il connaît exactement tout ça pour chacun. Il nous accorde l'importance comme si nous n'étions que le seul sur la terre. C'est vrai qu'il ne faut pas trop se prendre pour le centre du monde, mais par moments réalisons que pour notre Père, nous sommes ce qu'il y a de plus important. Il nous encourage, il croit en nous, il croit qu'on est capable, il croit qu'on est le meilleur. Vous savez, parfois un père a tendance à penser que son fils c'est le meilleur. On a toujours tendance à penser que nos enfants c'est les meilleurs, qu'ils vont jamais faire de bêtises. Alors on se dit, non, mon enfant il est bien, c'est le meilleur, c'est le plus fort, c'est le plus beau, c'est la plus belle. Et c'est très bien comme ça. Ce qui m'amuse des fois c'est quand les enfants naissent à la maternité, vous voyez les jeunes parents avec leur bébé sur le bras, disent, ah, il est beau, il est belle, c'est le plus beau bébé, tout ça. Alors, on va pas contrarier les gens, on leur dit qu'ils ont raison, mais sincèrement, il y a des bébés quand même qui ont des têtes un peu, des fois on rigole, ou bien des fois il reste un peu de liquide dessus quand ils viennent de naître, ou bien ils ont la peau un peu fripée, tout ça. Mais pour les parents, c'est ce qu'il y a de plus beau au monde, ils ont jamais rien vu de plus beau. Pourquoi? Parce que c'est leur bébé. Et peu importe que nous, à côté, on trouve que c'est pas forcément encore très beau, on attend que le visage soit un peu plus marqué pour s'exprimer, mais c'est le plus beau bébé pour eux. Et tu sais quoi, pour Dieu, tu es le plus beau, la plus belle créature qui puisse exister. Et même si les gens d'à côté disent, mais t'as pas si, t'es pas comme ça, t'es moche, t'es comme si, t'es comme ça, mais quand Dieu te regarde, il dit, ça, c'est ce qu'il y a de plus beau, c'est mon chef-d'œuvre, je t'aime, je t'ai créé, tu es précieux pour moi, je te porte dans mon cœur. Ça, c'est notre papa. Waouh! Ah, merci Seigneur. Vous savez, l'une des choses vraiment extraordinaires dans ma jeunesse, j'ai vraiment eu la grâce de connaître le Seigneur assez tôt. On m'a raconté des histoires de Jésus depuis que j'avais l'âge à peu près de 5 ans et j'aimais bien tout ça. Et c'est vraiment à l'âge de 11 ans que j'ai vraiment reçu le Seigneur dans ma vie et à ce moment-là, il est vraiment devenu pour moi le Père qui me manquait. Je sais avec beaucoup de respect pour mon Père. Je sais que j'ai beaucoup pleuré, j'ai vécu beaucoup de choses, mais j'avais désormais un père et qui me donnait du courage. Je sais que des fois j'étais découragé et j'en parlais pas à mes parents et même pas à ma maman non plus parce que c'était parfois un peu compliqué. Mais il m'arrivait d'être là dans ma chambre et pour moi je me sentais encouragé. Et je sais que c'est mon papa au ciel qui était là à m'encourager, à me relever, à me dire vas-y, tu peux le faire, tu peux y arriver. Ça m'arrive encore des fois. Et je dis mais Dieu est mon père, il est ton père, il est notre père. Il nous encourage. Il est de notre côté, il croit en nous, il nous supporte. On est ce qu'il y a de meilleur pour lui, de plus précieux, chacun et chacune. Et de la même façon, chacun de nous en tant que père, messieurs, nous devrions voir nos enfants comme ce qu'il y a de plus précieux. Nous devrions voir en eux qu'ils sont capables, ils peuvent devenir quelque chose, ils peuvent accomplir des choses. Nous devons les soutenir, être leurs supporters. C'est vrai qu'on doit les punir et les corriger, mais on doit aussi les encourager et les supporter. Parce que notre Père le fait pour chacun d'entre nous. J'essaie de ne pas être trop long. D'ailleurs, je vais finir avec ce point-là. C'est que notre Père nous accompagne vers la maturité et l'accomplissement. C'est ce que fait Dieu, notre Père. C'est Dieu nous a sauvés, nous a mis là, mais pas pour qu'on reste juste, qu'on vivote. Il nous a sauvés, il veut nous amener à grandir en maturité et à nous accomplir, à nous développer. On l'a aperçu tout à l'heure quand on a lu 2 Corinthiens 3,16. Il dit que toute écriture est inspirée de Dieu et utile, et il dit pour que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. L'homme, la femme de Dieu, en fait, c'est chacun de nous, pour que l'enfant de Dieu, qui reçoit cette parole, qui la pratique, qui s'y conforme, soit accompli. Et Dieu désire qu'on soit accompli, qu'on arrive à la maturité. Un autre exemple, c'est Éphésiens 4. Vous connaissez un peu ce passage qui nous dit notamment que Dieu a établi dans l'Église les ministères, apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère. Et il est dit jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et à la mesure de la stature parfaite de Christ. Donc Dieu met en place, j'allais dire une stratégie, Dieu met en place des éléments pour nous faire nous développer, pour nous faire grandir en maturité. Et l'une des manières dont le Père le fait, c'est notamment à travers l'Église. C'est pour ça que ces enfants se retrouvent entre eux, c'est pour ça que Dieu fait des dons aux hommes, comme il dit dans la parole, avec certains talents, certaines capacités, certains appels, pour nous amener à la maturité, nous amener à progresser. Mais j'aimerais quand même dire en passant qu'aucun ministère ne doit être mon père. Mon père, c'est Dieu. Dieu est notre père. Un ministère va agir d'une certaine manière de la part du Père, c'est-à-dire en nous amenant à la maturité, à la compréhension, peut-être en nous corrigeant parfois. Il va être un relais de Dieu, mais c'est Dieu ton Père, c'est pas une personne. Sur la terre, Dieu est notre Père à chacun d'entre nous. Et même quand on est là ensemble, peut-être que voilà, Dieu m'a mis dans cette position et quelquefois... Enfin bon, je garde ma réflexion pour moi, mais Dieu a choisi que je puisse être dans une position de père d'une certaine façon, puisque nous sommes une communauté, nous sommes une famille en Christ, et j'ai cette responsabilité de vous manifester le cœur du Père en essayant de vous amener à la maturité, en essayant de vous encourager, en quelquefois vous consolant quand vous en avez besoin, en essayant de vous amener cette image du Père. Mais ce qui est important, c'est pas tellement moi, c'est Dieu notre Père. Et il est notre Père à tous, et tous ensemble, comme ce matin et comme à chaque fois qu'on se retrouve, on vient ensemble devant notre Père à tous. Vous venez pas devant moi, j'espère, sinon faut tout de suite corriger ça. On vient devant notre Père. Vous venez pas m'écouter, on vient ensemble écouter notre Père. Certes, je prends toujours un peu d'avance parce que je dois d'abord aller voir le Père en lui disant « Bon, papa, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on dit cette semaine? Qu'est-ce que tu as pour eux? Qu'est-ce que tu veux ?» Et puis après, ensemble, on vient l'écouter. Vous savez, moi-même, quand je parle, je m'écoute. Et quelquefois, j'apprends des choses au-delà de ce que j'ai pu méditer, travailler, noter. Mais Dieu est notre Père et il veut nous amener à la maturité et à l'accomplissement. Il ne nous tient pas enfermés, il ne veut pas qu'on vivote. Vous savez, chaque parent désire que son enfant quand même s'accomplisse, réussisse, se développe, gagne en maturité. On ne veut pas rester des bébés, des enfants, on veut progresser et notre Père le veut pour nous. Et je finirai simplement avec un petit mot pour les papas parmi nous, mais c'est tout simplement qu'à l'image du Père céleste, ces quelques points que nous avons abordés ce matin, qui sont probablement pas exhaustifs, mais qui donnent déjà une image, et qui viennent déjà rétablir qui est notre Père. Et nous avons un Père, et qu'est-ce que ça peut changer dans notre vie? Eh bien, nous pouvons aussi, par la grâce de Dieu, avoir ces qualités-là de Père. Nous pouvons manifester pour nos enfants ces mêmes qualités. Nous pouvons être un Père disponible et accessible quand nos enfants ont besoin de nous. Et peut-être même si c'est pour nous dire quelque chose de pas très important, mais on peut se rendre disponible à nos enfants. On peut être un père qui donne les repères, qui mette un cadre, qui soit une référence pour nos enfants. On peut être un père qui donne de bonnes choses à notre enfant, parce qu'on sait ce dont il a besoin. On peut être ce père qui console, qui protège, qui relève. Ce père qui aussi parfois va corriger, va réajuster l'enfant, mais sans le condamner. Et en sachant le pardonner et l'amener à la restauration, on peut être un père qui croit dans son fils, dans ses enfants, et qui le supporte, qui l'encourage. On peut être un père qui accompagne notre enfant vers la maturité et vers l'accomplissement. Et là, on va vraiment refléter l'amour de notre Père céleste. Là, on va vraiment ramener un modèle selon Dieu pour nos familles, pour nos enfants, pour qu'eux-mêmes puissent grandir dans cette confiance en nous, en Dieu, et puissent vivre un modèle favorable, un modèle meilleur. Et Proverbe 17, verset 6, dit que les pères sont la gloire des enfants. Et j'aime à croire qu'alors qu'on laisse Dieu nous ajuster, alors que le Saint-Esprit va continuer aussi à travailler dans nos cœurs, à nous donner les capacités que peut-être on n'avait pas, mais que nous puissions être la gloire de nos enfants. Que nos enfants puissent être fiers de nous. Qu'ils puissent dire, mais mon papa, c'est vraiment un père. Peut-être quand ils seront plus grands, parce que des fois quand ils sont petits, ils comprennent pas trop pourquoi on fait certaines choses, pourquoi on fait certains choix, mais qu'à un moment donné, nos enfants puissent dire, mais moi j'ai eu un père, j'ai un père, j'ai un papa, je suis fier de mon papa. Les pères sont la gloire des enfants. Que nous pouvons être fiers de nos enfants, mais de la même façon, nos enfants devraient pouvoir être fiers de nous en tant que pères. C'est vrai pour les mamans aussi, hein, soyez pas exclus. Mais aujourd'hui, c'est la fête des pères. Vous avez eu votre part il y a quelque temps. Mais le papa, le père. Donc pour les pères, laissons Dieu travailler nos cœurs, nous rendre capables, faire de nous des bons papas, des bons pères qui reflètent le Père, qui soient pour nos enfants une bénédiction, une gloire. Que nos enfants soient fiers de nous et nous aussi, nous puissions être fiers d'eux. Et puis réalisons que nous avons tous un Père dans les cieux. Que ce Père, c'est vrai qu'il est saint, il est tout-puissant, il est droit, il ne joue pas, entre guillemets, et nous devons garder dans nos cœurs la crainte de Dieu, une sainte crainte pour lui, parce qu'il est tout-puissant, parce qu'il est extraordinairement grand, et parce qu'on ne fait pas n'importe quoi, qu'il a établi des choses auxquelles il se tient, mais nous rappeler aussi que ce Père nous aime, que ce Père a pour nous des bons projets, que ce Père veut notre bien, que ce Père est un consolateur, que ce Père est un encourageur, je ne sais pas si le mot existe, que ce Père est là pour que nous puissions progresser, qu'il veut nous voir progresser, qu'il veut nous voir nous épanouir, que ce Père veut ce qu'il y a de meilleur pour nous, qu'il nous aime, qu'il est disponible, qu'il s'engage pleinement pour chacun d'entre nous. Nous avons un Père qui nous nourrit. Peut-être que si quelqu'un se sent loin de ce Père, mais aujourd'hui, laissez-vous rafraîchir par cette parole et redécouvrez peut-être Dieu comme votre Père, comme ce Papa-là. Pas juste celui qui te dit « tu dois pas » et puis qui te sanctionne ou qui te récompense de temps en temps. Mais vraiment comme ce Papa qui est proche de toi, qui est disponible, qui te communique quelque chose, qui t'accompagne, qui te fait du bien, qui te donne le meilleur. Il veut faire encore beaucoup plus pour chacun d'entre nous. Et ce matin, l'objectif vraiment de ce message, et je crois que l'Esprit de Dieu va s'en servir vraiment et encore travailler nos cœurs, c'est que nous puissions être restaurés, rétablis dans une juste vision de notre Père. Notre Père qui est aux cieux, nous avons ce Père-là, et aussi pour messieurs et les papas, que nous puissions être un Père à l'image de ce Père-là. Et on verra vraiment la grâce de Dieu, la bonté de Dieu. Nous avons un Père, nous ne sommes pas seuls. Peut-être que certains ont été blessés dans leur enfance ou dans leur jeunesse, et parfois ça laisse des traces, mais vous avez un Papa. Nous avons un Papa. Il veut notre bien, il veut nous soutenir, il nous encourage. Il veut tout mettre à notre disposition. Il sait ce qui est bon pour nous. Il nous console. Il nous accompagne. Donc soyons vraiment affermis ce matin dans notre statut d'enfant de Dieu. Ne sommes pas juste adhérents, entre guillemets, à une société religieuse avec une grande puissance inconnue au-dessus. Mais nous avons un Papa. Nous sommes fils et filles de Dieu. Nous sommes une famille avec son amour, sa grâce, sa bonté, sa puissance qui est disponible. Amen. Alléluia. Père, merci pour ta parole ce matin. Merci parce que tu te révèles à nous comme tu es vraiment. Et merci parce que tu nous fais cette grâce aujourd'hui de pouvoir laisser ta parole entrer dans nos cœurs et te considérer vraiment comme ce Père, ce Papa. C'est vrai que nous prions et nous connaissons que Dieu est notre Papa, mais Seigneur, je te demande vraiment, parce que tu n'envoies pas ta parole par hasard, que ce matin tu accompagnes ta parole et que toi, Saint-Esprit, tu viennes rendre vivante cette parole dans nos cœurs. Tu viennes nous convaincre, nous raffermir, nous rafraîchir, nous réveiller, en nous rappelant qu'on a un Papa, tu es notre Papa. Et que nous puissions vraiment venir à toi, Seigneur, non pas seulement dans une démarche formelle, dans une démarche quelconque, mais qu'on puisse vraiment s'approcher en sachant que je viens chez mon Papa, ce Papa qui m'a créé, qui m'a donné la vie, ce Papa qui a des projets excellents pour moi, ce Papa qui a tout ce qu'il faut, ce Papa qui est pour moi, qui est avec moi, qui veut mon bien, et ce Papa qui me corrige si je me trompe, mais qui ne me condamne pas, au contraire, qui m'amène à progresser, à avancer, à devenir meilleur. Seigneur, je te demande vraiment de donner à chacun d'entre nous une révélation fraîche de Dieu comme notre Papa, comme notre Père. Merci Seigneur, parce qu'avec ta parole et l'onction du Saint-Esprit qui l'accompagne maintenant et même dans les jours et les heures à venir, Seigneur, tu nous guéris là où peut-être nous avons besoin de guérison par rapport à l'image du Père. Tu nous guéris là où nous avons des réflexions et des positionnements qui sont influencés par un vécu, par des incompréhensions, par des difficultés peut-être. Et tu viens, Seigneur, nous libérer totalement pour que nous puissions réellement jouir de cette communion, de toi, notre Papa, envers nous comme tes enfants, comme tes préférés, comme ton favori, comme celui que tu aimes, comme celui à qui tu veux donner ce qui est le meilleur, comme celui en qui tu crois et que tu vois progresser. Merci, Saint-Esprit, pour ta grâce, ta faveur, ta bonté, qui se répand encore sur chacune de nos vies, Seigneur. Merci, Père. Et ce matin aussi, je veux te demander de toucher chaque homme parmi nous et moi-même en tant que papa. Nous puissions vraiment être des pères selon ton cœur, selon ton modèle, selon ton plan. Tu puisses, Seigneur, nous, nous rendre capables. Et je sais que le temps peut-être qui s'est passé, mais c'est pas perdu. Toi, tu peux rattraper le temps perdu. Si parfois on a l'impression de perdre du temps. Toi, Seigneur, tu peux nous donner toutes les capacités nécessaires. Et tu fais de nous des bons pères. Et je déclare que nous sommes de bons papas. Nous sommes des pères selon le cœur de Dieu. Je le déclare sur chacun de nous qui avons des enfants, et je le déclare sur ceux qui n'en ont pas encore et qui vont en avoir. Tu fais de nous des pères, des papas, des repères, des hommes faits en toi qui sachent refléter ton cœur. Merci Seigneur pour ta grâce, ta faveur, ta bonté. Et selon ta parole aussi, en ce moment, nous tenons devant toi et tu nous as dit d'honorer notre père et notre mère pour vivre longtemps et heureux sur cette terre. Et Seigneur, en ton nom, nous bénissons nos papas, chacun d'entre nous, pour ceux qui sont encore en vie. Père, je te demande de toucher les papas, de toucher les pères, de leur faire du bien. Je te demande, Seigneur, que les pères puissent être fiers de leurs fils et de leurs filles, que les pères puissent être satisfaits de voir leurs enfants s'épanouir, se réaliser. Je prie, Seigneur, de nous donner l'occasion et la volonté et la capacité aussi à chacun qu'ils puissent honorer leur père d'une façon qui te plaise et qui t'honore, Seigneur. Merci, Papa, parce que tu vas faire des choses extraordinaires encore dans les temps à venir et même dans cette journée. Seigneur, s'il y a des endroits où peut-être il y a un travail de réconciliation et de restauration, Saint-Esprit, donne-nous la bonne pensée, la bonne idée, la bonne action pour aujourd'hui que chacun puisse honorer son père. Je demande, Papa, de le faire dans ta grâce. Merci Seigneur, parce que nous allons tous nous réjouir, nous allons passer une bonne journée. Merci Père, parce qu'à partir de maintenant, avec cette parole dans nos cœurs, nous sommes confiants, nous sommes forts, nous prenons de l'assurance, parce que nous savons que tu es notre Papa, que tu es pour nous, et que quoi qu'il nous arrive, tu nous encourageras, tu nous relèveras, que si nous nous trompons, tu nous corrigeras, et ça c'est une bonne nouvelle, de pas nous laisser tomber dans autre chose. Nous savons que si c'est difficile, nous pouvons nous tourner vers toi, parce que tu nous aimes, parce que tu veux notre bien. Merci Seigneur. En te donnant l'honneur, la louange et la gloire, Père, je te fais confiance pour l'œuvre que tu vas accomplir encore dans chacune de nos vies. Tu es bon, Seigneur, tu es grand. Nous croyons, Père, que les choses vont encore être plus propices à notre joie, à notre paix, à notre épanouissement, pour la gloire de ton nom. Merci pour nos familles, Papa. Tu nous bénis tous et toutes abondamment. Tu fais de nous une source de bénédiction dans toute notre famille. Que tu sois glorifié en toutes choses, Père, au nom de Jésus. Amen.
Cet enregistrement vous est offert sans frais par le programme Provision, une initiative du Centre Zoé avec Fabien Végel. Il est interdit de le vendre ou de le modifier. Pour tout renseignement, connectez-vous au www.provisiondevie.com.